Bonsoir à tous. Alors, ceci constitue le premier cours de propédeutique sur l'histoire de l'Église. Et je vais commencer par dire que l'Église de Dieu, nous le savons tous, est fondée par le Christ. Cette Église que Dieu s'est acquise par le sang de son propre Fils, ainsi que nous le rapporte Actes 20, 28. Cette Église, elle est à la fois un mystère et une institution, une réalité que l'on peut qualifier de divino-humaine. Comme réalité, nous le savons, le Nouveau Testament nous le rapporte, comme réalité divine, elle est sans tache, sans ride, et les portes de l'enfer n'auront pas prise sur elle, pas plus d'ailleurs que les ténèbres n'ont pu accaparer la lumière venue dans le monde, comme nous le dit le prologue de l'évangile de Jean. C'est là la promesse formelle, je le rappelle, c'est là la promesse formelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme réalité humaine, l'Église est aussi une institution. Nous le verrons plus tard avec donc la fondation des Églises, la fondation des communautés suite à la prédication kérigmatique des apôtres, l'institution par eux au moyen de l'imposition des mains du ministère de l'évêque, à la tête de chaque église locale ainsi constituée, lequel évêque est entouré d'autres ministères et du sacerdoce royal des fidèles. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet-là. Donc, l'Église comme réalité humaine, elle est pérégrinante au sein même de ce monde. Elle pérégrine comme témoin du royaume qui vient, et elle est aussi composée à chaque génération humaine d'une assemblée de pécheurs. Alors, compte tenu de cette double dimension de l'Église de Dieu, faire l'histoire de l'Église, étudier l'histoire de l'Église, ce n'est pas faire, comme le dit tout à fait justement le père André Borély, la sociologie d'une institution. Ce serait alors réduire le mystère de l'Église aux dimensions d'une simple science humaine. Donc nous commencerons par voir ce qui, dans le Nouveau Testament, se rapporte à l'Église, ce qui est dit d'elle dans l'Évangile, les Actes, les Épîtres de saint Paul et l'Apocalypse de saint Jean, le théologien. D'abord, expliquons-nous sur ce que signifie le mystère de l'Église. J'emprunte, pour exprimer cette réalité, trois citations au livre du père André Borély, prêtre orthodoxe à Marseille, livre intitulé « L'Église n'est-elle qu'une institution ?» Ce livre a été publié en 1994, et j'emprunte ces trois citations, car le père André Borély exprime ces choses excellemment, en tout cas beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. En premier lieu, donc, le père nous dit, je cite, en parlant du mystère, « On ne doit point entendre un problème insoluble, une énigme crucifiante et humiliante pour l'entendement humain, mais une réalité sans fond, une profondeur abyssale, que la pensée et le cœur de l'homme ne finiront jamais d'explorer pour en vivre. » Alors ce mot grec « mysterion » désigne le dessein de Dieu nécessairement caché, parce que les voies divines sont insondables, inépuisables, infinies. Et après nous avoir dit que l'institution ecclésiale est nécessaire et par conséquent légitime, le père André ajoute, je cite, « Cependant, sa seule nécessité et son unique légitimité résident tout entière dans le fait qu'elle est la trace empirique, l'empreinte terrestre de la puissance de résurrection et de transfiguration, de divinisation et de transparence paradisiaque, de lumière incréée, sereine et joyeuse, qui constitue l'essentiel du mystère de l'Église. Ce mystère n'est rien d'autre que la présence sacramentelle du ressuscité. Fin de citation. Pour cette raison fondamentale, l'Église, comme cela vient d'être dit, ne se réduit pas à sa face institutionnelle, car par le baptême et l'onction chrismale, par l'Eucharistie et par l'invocation du Saint-Esprit sur l'huile des malades, sur le pénitent qui vient confesser ses péchés, sur l'amour d'un homme et d'une femme, sur un homme qui devient diacre, sur un diacre qui devient prêtre, sur un prêtre qui devient évêque, l'Église, nous dit le Père André, est d'abord et fondamentalement le lieu divino-humain où les hommes sont introduits dans l'intimité de la conversation. Alors, il entend dans une note « conversation » dans le sens latin du terme, « conversatio », c'est-à-dire « commerce, intimité, fréquentation ». Donc, dans l'intimité de la conversation, que de toute éternité, les trois personnes divines entretiennent dans le secret ineffable de leur vie trinitaire. C'est ainsi donc que l'Église est essentiellement le lieu où le Saint-Esprit met lui-même en mouvement la fine pointe de l'âme humaine, féconde la racine même de l'être personnel de l'homme, donne au pneuma humain la force de manifester la puissance même du Christ ressuscité. Dans l'Église, l'homme est convié à vivre en acquérant le Saint-Esprit en participant à celui-ci. Voilà, terminé avec les citations du Père André Borelli, qui exprime vraiment magnifiquement ce qu'est le cœur du mystère de l'Église. Alors, ainsi pouvons-nous nous approcher de ce mystère qu'est l'Église sans le réduire à une dimension mondaine, et surtout à ne pas le perdre de vue quand nous étudions l'histoire de l'Église pérégrinante au sein du temps des hommes. Venons-en donc maintenant à interroger le Nouveau Testament et ce qu'il nous dit du mystère de l'Église. D'abord, que signifie ce mot « Église » ? Ecclesia vient du vocabulaire de la Septante, la Bible d'Alexandrie, et traduit le mot hébreu « Kahal ». Il désigne l'assemblée convoquée par Dieu, le peuple d'Israël dans la première alliance, l'assemblée convoquée et rassemblée par le Christ et au nom du Christ dans la nouvelle alliance. Le mot ecclesia, église, est mentionné pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, dans l'évangile de saint Matthieu, en Matthieu 18, chapitre 16, verset 18 et suivant, dans une parole du Christ adressée à l'apôtre Pierre, après sa confession, répondant à la question du Seigneur, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors on sait que Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur reprend la parole et il déclare, l'évangéliste dit, « Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Bienheureux es-tu, Simon Bar-Yona. » Simon Bar-Yona, c'est Simon, fils de Jonas. « Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Kephas. Kephas est la pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Donc en Matthieu 16, 18. L'Église donc désigne ici la communauté nouvelle, appelée à rassembler les circoncis et les incirconcis, autrement dit, les Juifs et les païens, communauté nouvelle que Jésus va bâtir sur un roc, une pierre. Et il faut remarquer d'ailleurs que le nom nouveau que Jésus donne à Simon Bar-Yona n'était pas alors utilisé comme un nom propre pour une personne. Je veux dire qu'Epha n'était pas utilisé jusque-là comme un nom propre pour une personne. Ce rocher, quel est-il ? Qu'est-ce que c'est cette pierre ? C'est la confession de Simon, fils de Jonas. C'est sur la confession « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » que l'Église sera édifiée, et non sur la personne de Pierre. Là, il ne faut pas faire la confusion. C'est l'enjeu ici, c'est la confession de Pierre et non sa personne, sans pour autant méconnaître la dignité de l'apôtre Pierre et le rôle éminent et important qu'il joue dans le collège apostolique. Mais nous savons aussi par l'Évangile que la personne de Pierre connaîtra nombre de vicissitudes. Alors, au demeurant, et suivant en cela ce qu'affirme le père Serge Bulgakov, dans un livre qu'il a écrit et qui s'appelle « Les deux saints premiers apôtres, Pierre et Jean », ce livre est paru, je ne connais plus l'éditeur, bon ça va me revenir, Pierre exprime, alors c'est le père Serge Bulgakov qui parle, hein. Pierre exprime en sa personne la foi commune des apôtres. Et je cite, « Tous répondirent comme un seul et par l'intermédiaire d'un seul », donc à la question du Christ, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et ce représentant unique de tout l'ordre apostolique, l'aîné en quelque sorte du groupe des apôtres, fut Pierre, qui répondit pour tous, comme le rapporte sans embâge l'Évangile, et le Père Serge cite Matthieu 16, 18 et suivant, « Mais pour vous, qui suis-je, prenant la parole, Simon-Pierre, j'ai déjà cité le texte, et il poursuit, « Le fait qu'il n'exprimait pas simplement son opinion personnelle, mais qu'il s'était fait le héros de tous, est avéré par le contexte où le silence des autres apôtres ne peut être compris autrement que comme un acquiescement tacite à la profession de foi de Pierre. » C'est à la page 24 de son livre déjà cité. Et le père Serge ajoute encore, c'est très important, « Celui-ci accomplit un acte de foi par lequel le Seigneur le proclame bienheureux. » Celui-ci, c'est Pierre, bien sûr. Et il recite à nouveau, ça c'est page 32 de son livre, « Prenant la parole, Jésus lui dit... » Bon, vous connaissez la citation. Et le père Serge poursuit, « En attestant que Pierre avait été digne de devenir ici l'organe de l'inspiration divine, le Seigneur proclame bienheureux avec lui et dans sa personne tout l'ordre des apôtres dont il venait de confesser la foi commune. La suite du récit évangélique confirme que c'était véritablement l'expression de leur foi commune. Non seulement il n'eut de la part des disciples la moindre question, ni la moindre manifestation d'étonnement, comme c'est généralement le cas dans les moments de perplexité, mais il régnait manifestement entre eux une parfaite harmonie. » Donc là, j'ai terminé la citation du père Serge Bulgakov. Confession de Simon-Pierre, donc, qui nous dit l'Évangile, n'est pas l'œuvre de la chair et du sang, mais qui est l'objet d'une révélation du Père des cieux, selon la parole même du Christ. Alors, maintenant, poursuivons notre perception du mystère de l'Église, tel qu'il se dévoile et tel qu'il se donne à voir et à comprendre dans le Nouveau Testament. L'Église, il nous est dit que l'Église est un mystère caché en Dieu avant les siècles. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 5, « Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. » Et saint Paul, affirmant que juifs et païens sont membres d'un même corps, souligne que l'Église constitue la manifestation dernière du dessein de Dieu, lequel dessein de Dieu est au profit du salut des hommes. Je cite Éphésiens 3:10 « Ainsi les autorités et pouvoirs dans les cieux connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu, selon le projet éternel qu'il a exécuté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le même apôtre Paul nous rappelle que l'Église est le sujet de tout l'amour de Dieu, parce qu'il se l'est acquise par le sang de son Fils bien-aimé. Cette réalité est exprimée dans ce même épître aux Éphésiens, dans des paroles que nous connaissons bien, puisqu'elles font l'objet de l'une des lectures lors de la célébration du mystère du mariage. Citons Éphésiens 5 à partir du verset 5. Le récit est plus long, mais je le prends à partir du verset 5. Du verset 25, pardon. 5, 25. Que vous êtes un certain nombre à connaître. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte, en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Et saint Paul ajoute, quand il demande dans son épître au mari d'aimer sa femme comme son propre corps, « Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres d'un même corps ?» C'est en Éphésiens 5, 29. Alors, on voit là le don total que le Christ fait à son Église. Dans son ardent désir de s'unir à elle comme l'époux à l'épouse. Et cela se traduit par un don total de lui-même, un don total, car l'amour divin est don et oblation. Et il faut ici rappeler que dans l'Évangile, le terme de royaume correspond souvent à l'une des désignations de l'Église. Et peut-être, ce n'est pas le premier niveau de signification de la parabole des perles, de la perle qu'on trouve en Matthieu 13, mais peut-être que on pourrait dire que la perle de la parabole en question que l'on trouve en Matthieu 13, eh bien la perle de grand prix qui figure en Matthieu 13 est symbolique de l'Église, en fait. L'Église est aux yeux du Christ une perle de grand prix. Saint Paul nous dit aussi que l'Église rassemble ceux qui sont lavés par le sang du Christ. En écho avec saint Jean, on pourrait dire aussi que elle rassemble ceux qui sont nés, non d'un vouloir de chair ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est dans le prologue que nous trouvons cette affirmation. Et d'ailleurs, une supplication du prêtre dans la divine liturgie, à propos de ceux qui sont lavés par le sang du Christ, une supplication du prêtre dans la divine liturgie, après la communion des fidèles, formule cette demande ainsi. « Lave, Seigneur, par ton sang précieux, les péchés de tes serviteurs dont il a été fait mention en ce jour » par les prières de tes saints. Ainsi, voyez-vous, chaque baptisé qui, à son tour, comme le fit jadis Simon, fils de Jonas, Simon-Pierre, chaque baptisé a exprimé à son tour la confession de foi qu'il fit dans l'unanimité du collège apostolique, eh bien, chaque baptisé est uni étroitement au Christ par le Saint-Esprit, de sorte que la vie en Christ est fondée sur la communion avec lui, dans l'Église, mais aussi avec les frères, bien sûr. Communion avec le Christ et avec les frères. L'hymne, je poursuis, l'hymne que nous trouvons dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, donc cette hymne fameuse, en 1 Colossiens 15-20, nous dit que Dieu a fait habiter dans le Christ la plénitude, lui qui est la tête du corps qui est l'Église, tête souveraine et vivifiante de l'Église, car, je cite, « en lui habite toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. » C'est en Colossiens, alors là, la dernière citation est en Colossiens 2, 9, 10. La plénitude du Christ est présente dans son Église, nous dit saint Paul, et là aussi, la prière de Lambon qui est prononcée à la fin de la divine liturgie fait écho à cela, quand il est demandé « Garde, Seigneur, la plénitude de ton Église », comme pour souligner que l'Église est appelée à la plénitude du Christ. Éphésiens 1, 22-23 évoque lui aussi « Le Christ sommet de tout, tête de l'Église ». Alors, de tout ce qui vient d'être dit, il découle que c'est grâce à lui que les uns et les autres, et là c'est encore une citation de l'apôtre Paul, « dans un seul esprit, nous avons accès au Père. Ainsi, nous dit saint Paul, vous n'êtes plus des étrangers, c'est très important ça, hein, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre d'angle. C'est en lui que vous aussi vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir demeure de Dieu par l'Esprit. » C'est Éphésiens 2, 18-22. Donc, habitation de Dieu par l'Esprit, qui demeure et manifeste mystiquement la présence du Christ parmi les siens. Nous disons, toi qui es invisiblement présent au milieu de nous, avant la Sainte Communion. Et de son côté, l'Épître aux Romains met également en lumière l'unité de ce corps. L'unité de ce corps. L'Église est comparé à un corps dont la tête est l'Église, et il y a unité de ce corps dans la diversité de ses membres, parce qu'il y a unité de corps et pluralité des dons et des grâces accordées. En effet, dit l'apôtre Paul en Romains 12, 4, 5, en effet, nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ses membres n'ont pas tous la même fonction. Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant membres les uns des autres, chacun pour sa part, et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. D'autres facettes de ce mystère de l'Église sont elles aussi évoquées dans le Nouveau Testament. L'Église est comparée à un temple saint dont l'unique fondement est le Christ, pierre de fondation, Ça peut être aussi la clé de voûte de l'édifice. Pierre de fondation dont l'édifice est composé de pierres vivantes. Ça, c'est une image très parlante. Les pierres vivantes, lesquelles pierres vivantes sont les membres de l'Église. Je citerai l'apôtre Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Alors là, c'est pierre vivante au singulier, puisqu'il s'agit du Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, vous êtes comme des pierres vivantes. Entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et plus loin, l'apôtre poursuit, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est dans la première épître de Pierre, au deuxième chapitre, dans les versets 4 à 10. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de cette citation ? C'est que l'Église épouse du Christ, et par conséquent, toutes les pierres vivantes qui la composent, qui sont les membres de cette Église, est appelé à grandir sans cesse dans l'intimité avec l'Époux céleste, à le connaître toujours plus intimement dans cette union qui est sans confusion, bien sûr, et donc à faire sa volonté, bref, à croître aux dimensions de son Seigneur. Et je rappelle là que ce qui est valable pour l'Église assemblée, pour le corps tout entier, est valable pour chaque membre de chaque pierre vivante de cette Église. Parce que de même que le Christ est l'époux de l'Église, de même, il veut être l'époux de chaque âme chrétienne. Et donc, ce qui est dit par l'apôtre vise aussi chaque âme chrétienne. Alors, si vous le voulez bien, je terminerai cette énumération, qui est loin d'être exhaustive, des principales caractéristiques du mystère de l'Église qui nous sont données de connaître par la révélation. Qui nous sont données de connaître par la révélation, mais pour en vivre. C'est pas une connaissance intellectuelle là qui nous est livrée, c'est une connaissance vivante, c'est une connaissance qui vise l'union du Christ et de son Église, et par conséquent de chaque âme chrétienne avec le Christ. Donc c'est une connaissance pour la vie. Et je terminerai donc cette énumération non exhaustive, ainsi que je viens de le dire, par la dimension eschatologique du mystère. Car il y a une dimension eschatologique dans ce mystère de l'Église. Cette dimension, elle est évoquée par Saint Jean le théologien, le visionnaire de Patmos. Dans ce que l'on peut et que l'on doit appeler la vision des noces de l'agneau. Je cite « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. » C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 8. Et à la fin donc de ce même livre qui, je rappelle, est le dernier livre de la Bible chrétienne, comme pour faire écho à ces noces de l'agneau, vues par Jean le théologien, nous voyons l'esprit et l'épouse qui disent au Seigneur « Viens !» Et le Seigneur, qui est celui qui se donne totalement à l'épouse, de répondre « Je viens bientôt !» Cette même épouse, d'ailleurs, elle est appelée au 21e chapitre du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, elle est appelée dans sa réalité glorieuse, bien sûr, à la parousie donc, elle est qualifiée de cité sainte, de demeure de Dieu parmi les hommes, et elle a quelque chose à voir, bien sûr, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont parle le livre de l'Apocalypse. C'est donc en ayant présent, fortement présent à l'esprit ce mystère que nous pouvons étudier l'histoire de l'Église proprement dite, celle qui pérégrine dans le temps de ce monde à travers les siècles, en sachant que, pour digne qu'elle soit, bien sûr, parce qu'elle peut nous apporter beaucoup de bonnes choses, mais pour digne qu'elle soit, la science historique ne peut suffire à rendre compte de l'histoire de cet objet singulier qu'est l'Église. Alors, nous avons pour commencer cette étude un texte très important qui figure dans le canon de l'Écriture sainte dans le Nouveau Testament. C'est le livre des Actes des Apôtres, qui est le premier document, en fait, sur l'histoire de l'Église, qui est à notre disposition. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui est souvent méconnu par un grand nombre, qui ne retient pas l'attention d'un grand nombre, et pourtant, c'est un livre d'une extrême importance. À qui nous le devons, ce livre ? Nous le devons, nous le savons, à Saint Luc. Luc, le médecin qui est nommé par Saint Paul dans trois de ses épîtres. Et Luc, dont on connaît le souci de faire œuvre d'historien avec exactitude. Il s'est affirmé d'ailleurs dans le commencement de son évangile. Je cite parce que c'est important ça. « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé, dit-il, après m'être soigneusement informé de tout, à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. » Donc c'est Luc 1, verset 1-4. Et bon, l'évangile de Saint-Luc est structuré, bon, c'est pas mon sujet, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'évangile de Saint-Luc est structuré, nous le savons, autour d'une longue introduction comportant plusieurs récits, puis de la prédication du Seigneur en Galilée, puis la montée à Jérusalem, et enfin l'accomplissement dans cette même ville de la mission de sa mission, avec sa mort salvatrice et sa glorieuse résurrection. Et nous le savons, le récit de l'évangile de Luc s'interrompt au moment de l'ascension du Seigneur. Le livre des Actes, en fait, qui est lui dédicacé également au noble personnage qu'est Théophile, eh bien, on constitue la deuxième partie de l'Évangile. Il part de Jérusalem, au moment de la Pentecôte, où le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Puis, on voit le récit se déployer avec la parole de vie qui est portée, comme on dit, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire au moins des terres habitées et connues alors. Et on voit le kérigme évangélique, ainsi que le Christ ressuscité, ainsi qu'il l'a commandé, être porté dans différentes contrées de la terre, successivement de Jérusalem à la Samarie, la Judée, la Phénicie, Chypre, la Syrie, l'Asie mineure, le centre même de l'Empire romain, la ville de Rome, et bien d'autres lieux encore. Alors Saint Luc, là, fait œuvre d'historien en évoquant l'œuvre missionnaire des apôtres, en évoquant la fondation des églises par la prédication du kérigme, avec en son centre la mort et la résurrection du Seigneur, ça c'est ce qu'on appelle le kérigme évangélique. Alors je pense qu'il le fait dans la perspective de nous rapporter des faits. Il raconte une histoire, bien sûr, mais sans jamais perdre de vue que cette diffusion de l'Évangile est œuvre de Dieu et du Christ, est une œuvre accomplie par les apôtres, mais voulue par Dieu et par le Christ. C'est là c'est le fil conducteur de tout le livre des Actes, en définitive. Annonce de l'Évangile qui est d'abord à Israël, puis aux nations, pour le salut de tout le genre humain, ainsi qu'il est dit en 2.39 et en 3.25-26 du livre des Actes. Alors, il va convenir dans les leçons suivantes d'étudier plus en détail, de commencer à étudier plus en détail le livre des Actes. C'est pourquoi ? Parce que d'abord, c'est le premier document à notre disposition en ce qui concerne l'histoire de l'Église. Ensuite, parce que c'est très important pour nous, parce que nous voyons s'y déployer la geste et l'enseignement des apôtres, nous voyons véritablement, et c'est magnifique, la grâce surabondée, la fondation des églises suite à l'annonce du kérigme et le nombre croissant de ceux qui entrent dans la foi, dans la voie également. Vous savez que c'est une désignation ancienne de la foi chrétienne, la voie. Et nous voyons l'ardeur de la foi de nos premiers pères et aussi la grande exigence qu'avaient les premiers chrétiens. Grande exigence qui n'est pas toujours la nôtre aujourd'hui, mais vers laquelle il faut toujours se retourner. Alors on va voir ce récit se déployer autour de thèmes divers, avec ce fil conducteur dont j'ai parlé, la conversion de Corneille par exemple, l'évangélisation des Grecs d'Antioche, la mission de Barnabas et de Paul, les premières controverses autour de la question circoncis ou incirconcis, ce qui sera réglé par le synode des apôtres à Jérusalem, et les trois grandes missions de l'apôtre Paul. Ça, on va se pencher un peu en détail là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Voilà, j'en ai terminé pour la leçon d'aujourd'hui, qui était une leçon introductive, et je vous propose pour la séance suivante de lire avec attention le livre des Actes des apôtres. Ça ça constituera une bonne préparation pour le prochain cours. Alors, je rappelle les livres que j'ai cités. Le père Serge Bulgakov, les deux premiers apôtres Pierre et Jean. Donc c'est un livre qui est paru, je me souviens plus de l'éditeur, mais je pense que c'est le CERF. C'est dans l'échelle de Jacob. Ça a été repris par les éditions du CERF, me semble-t-il. C'est dans la collection L'échelle de Jacob. Et puis, bien sûr, le livre du père André Borély, L'Église n'est-elle qu'une institution ? C'est un livre paru en 1994, je ne sais pas s'il est encore en librairie ou s'il est épuisé. Enfin, vous pouvez le trouver en bibliothèque, éventuellement. Et puis, reportez-vous également sur les citations de l'écriture du Nouveau Testament dont j'ai fait mention, s'agissant du mystère de l'Église, et peut-être aussi vous en trouverez d'autres, parce que mon énumération n'était pas exhaustive. Voilà, donc je vous dis au mois de février.